À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il est question de Sainte Colette. C'est une femme extraordinaire. On se dit souvent que dans l'histoire de l'Église, les femmes étaient soumises et n'avaient pas de personnalité, etc. Elles étaient oubliées. Mais voilà une femme qui, au 15e siècle, a été appelée très jeune à réformer les Clarisses et à parcourir l'Europe pour réformer. Elle était une femme de caractère, une femme exceptionnelle. Et pourtant, elle a été, à 20 ans, recluse comme Jeanne Lebert. C'est assez étonnant. C'est une personne exceptionnelle, c'est une Française, qui est née le 13 janvier 1381, rue de la Chaussée, à Corbie. Corbie, c'est dans la Somme. Aujourd'hui, c'est à peu près 5000 habitants. C'est tout près d'Amiens. Amiens, là, quand vous regardez la carte, c'est juste au nord de Paris. Et c'est là qu'à 125 kilomètres, donc au nord de Paris, il y a la plus vaste église de France. La cathédrale d'Amiens date du 13e siècle. Donc, Sainte Colette l'a connue, y a prié. Et c'est là qu'est né le fameux savant du 20e siècle, Branly, dont je vais vous parler le 24 mars, dans quelques jours. Elle est donc née à Corbie, rue de la Chaussée, comme je vous ai dit. Elle était la fille du charpentier, d'un charpentier qui s'appelait Robert Boellet, B-O-E-L-E-T. Donc, c'est Colette Boellet, son nom. Sa mère s'appelait Marguerite Moyon. Et Colette est l'enfant d'un miracle, dit-on. Parce que ce ménage était stérile, ils ont essayé d'avoir des enfants. Sa mère avait environ 60 ans quand elle l'a mis au monde, ce qui était extrêmement rare. Et ce couple était rempli de joie d'avoir enfin le sourire d'un enfant. Et évidemment que on aime bien dans les récits que je fais, les récits de convertis. Elle, ce n'est pas vraiment une convertie. Elle a toujours été chrétienne dès le départ, dès son enfance. Et Dieu est évidemment maître de ses grâces, comme on dit dans les textes classiques. Il prépare, comme il l'entend, ceux qu'il destine à faire des choses fantastiques. Orpheline de toute façon à 17 ans, elle est soumise à la tutelle d'un grand bénédictin de son époque, dont Raoul de Roy, qui est le puissant abbé de la grande abbaye bénédictine de Corbie, de son petit village. Il y avait là une grande abbaye. Et Colette hésite donc sur son avenir. Une seule chose est claire, elle veut être à Dieu, elle veut entrer en religion quelque part. Elle repousse des partis fort avantageux, des jeunes gens qui l'aiment bien, car elle se présente bien. Mais elle se dépouille de ce qu'elle possède, et elle vend même son héritage, qui est pas énorme, son père était charpentier. Et elle donne en aumône tout l'argent qu'elle possède. Et la voici justement à Amiens, tout près de chez elle, qui n'est pas loin de son village. Et elle se place sous la direction du prieur des Célestins. C'est un ordre, ce qui a été fondé au milieu du 13e siècle, par Pierre de Moron, qui est devenu le fameux pape Célestin V. C'est pour ça qu'on les appelle les Célestins. Et cet ordre a été supprimé en 1778 par Pie VI. Donc, elle est sous la direction du prieur des Célestins, qui était connu à l'époque, Pierre Bassan, qui l'autorise à faire vœu de virginité personnelle, comme ça existe encore aujourd'hui dans l'Église. Je connais des femmes qui font ce vœu de virginité tout en étant dans le monde. Colette Boellet revient à Corbie, où un béguinage, une association de femmes pieuses, l'accueille comme servante. Puis ensuite, elle entre en qualité, il semble bien, de sœur converse dans un couvent de Clarisse, dont la règle plus ou moins mitigée, qui n'est pas fidèle à l'origine, ça la déçoit douloureusement. Ça, elle s'essaie encore comme converse chez les bénédictines, mais c'est la même chose, c'est un nouvel échec. Alors, hé là là, la rumeur commence à jaser un peu partout. Hein. Ça fait 7 années d'inconstance et d'échec. Elle était jeune, elle était adolescente à ce moment-là. Mais enfin paraît le père Jean Pinet, c'est le custode franciscain de Desdin. Desdin, c'est dans le H-E-S-D-I-N, c'est une petite ville dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Il devine qui est cette Colette. Il la sent comme une femme exceptionnelle, une jeune fille exceptionnelle. Il l'oriente vers le tiers-ordre franciscain, puis lui conseille, chose étrange, la réclusion. Ça veut dire ça qu'on lui bâtit un gîte étroit qui est encastré dans l'enceinte d'une église. Je vous avais déjà expliqué ça quand je vous ai parlé de Jeanne Lebert qui a été encastrée comme ça à l'église dans le Vieux-Montréal, hein, au début de Montréal. Alors on l'enferme dans cette petite endroit-là, vivante, et comme emmurée volontaire. Après qu'elle a fait ses trois vœux, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, que l'abbé bénédictin reçoit, puis il scelle la porte de son cachet de cire et elle n'a plus dès lors d'issue que vers Dieu seul. Et cette petite lucarne qui est ouverte sur le sanctuaire, parce qu'elle peut voir le sanctuaire de l'église, devant lequel elle va désormais passer son temps, si on peut dire, nuit et jour à prier. Alors, entrée dans cette prison qu'on appelle déjà à l'époque une prison d'amour, elle a 21 ans, le 10 septembre 402, elle croit y découvrir le ciel, elle est heureuse. Son rêve est maintenant réalisé, et la voilà qui accomplit à la lettre ce beau texte de saint Paul que vous connaissez, n'est-ce pas? Elle est morte au monde, et sa vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous vous souvenez de ce texte? Oh, non qu'elle soit absolument... à rien faire, là, c'est pas ça du tout. Elle est pas béatement confite, comme on dit, dans des petites dévotions. Non, non, elle jeûne, elle veille, elle subit, comme plusieurs saints, des assauts terribles, dit-on, de l'enfer. Elle voit venir à la grille de son tout petit parloir des gens qui sont en détresse ou qui ont besoin d'aide. Faut dire qu'à cette époque, on plaçait les recluses à la fine pointe de ce qu'on appelle les bataillons de la chrétienté, en tête donc de la grande armée des religieuses cloîtrées. Et Colette, donc, Sainte Colette Boëlet, est devenue une sorte de paratonnerre, pour ainsi dire, de Corbie, son village natal, auprès de Dieu. Elle a trouvé le havre de paix. Elle va s'épanouir, comme ça, dans sa vocation. Mais voici qu'il y a des bruits de bataille qui pénètrent l'endroit où elle est seule. On est alors en plein chaos, hein? Il y a l'envahisseur anglais qui regarde faire les Armagnacs et les Bourguignons qui se disputent le territoire. Pendant que des papes rivaux, il y avait plusieurs papes, il y avait des antipapes, quoi, qui se croient seuls, chacun se croit légitime. Alors, tout ça coupe l'Église en plusieurs obédiences, ça prolonge, évidemment, de façon invraisemblable, ce grand schisme d'Occident, dont il va falloir que je vous parle, ce grand schisme d'Occident, des papes, hein, qui se luttent les uns contre les autres, au fond. C'est terrible, cette histoire, ce passage de l'histoire de l'Église. Mais là, les ordres anciens, les ordres religieux anciens, eux, ont perdu le sens de l'observance primitive. Je pense que ça existe aujourd'hui aussi. Et la famille franciscaine traverse alors une crise de croissance. Et puis, leur idéal évangélique qui vient de saint François d'Assise s'est affaibli, s'est obscurci en même temps. Et c'est devant cette espèce de panorama plus ou moins monstrueux, où il y a du sang à cause de la guerre, la boue des péchés, le déclin, qui apparaît soudain... aux yeux inquiets de Sainte Colette, le désir de changer ça. Et elle reçoit l'ordre de départ. Elle le reçoit intérieurement. Oui, c'est le Christ qui la destine, elle, petite, un peu comme Sainte Jeanne d'Arc, à la même époque. Elle qui est sans force, elle est destinée à redonner vie et santé au corps du Christ à l'Église. Elle croit être l'objet d'une hallucination. Elle n'est pas folle. Elle se demande ce qui se passe. Elle se débat, d'ailleurs, puis elle résiste. Mais c'est en vain, Parce que là, elle a une apparition de Saint-François qui la demande pour réformer sa triple famille, hein, et se dérober, bien, c'est impossible pour elle, elle ne peut pas. Elle finit par acquiescer, par accepter totalement à cette volonté de Dieu. Puis elle établit sous sa dictée, sur un rouleau, là, un parchemin, qu'elle va aller soumettre au pape. C'est le plan de l'œuvre à entreprendre. Et c'est comme ça que l'Esprit-Saint l'arrache pour la jeter dans l'action. Et le fait d'avoir été recluse, elle a été recluse quelque temps, hein, ça fait comme amasser en elle des flots d'énergie qu'elle peut maintenant déverser sur l'humanité. C'est son rêve, et c'est un rêve qui vient de Dieu. À la naissance, d'ailleurs, on le sait, hein, de toute grande œuvre, il y a toujours un capital, si on peut dire, pour parler de façon comme les économistes, un capital spirituel qui vient de la contemplation. Hein. La vie cachée, oui, c'est la condition puis le prélude du succès à la vie publique. Chaque fois que vous avez le temps, allez dans un monastère vous recueillir, ne serait-ce que 2-3 jours, allez-y 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça fait beaucoup de bien. Et Sainte Colette doit devenir la grande mystique des routes de France. Elle doit devenir l'initiatrice d'une nouvelle croisade, c'est une croisade de l'Évangile. Elle ne luttera pas seule. Hein. Le ciel lui donne un appui en la personne du franciscain Henri de Baume, qui vient de l'entretenir du grand projet. Qui doit les voir tous les deux associés, le pape Benoît XIII, qui est mis au courant, donne toutes les dispenses. Il croit en cette femme. On dit que les femmes sont méprisées, mais allons donc. Et le 3 août 1406, elle n'a que 25 ans, à l'étonnement scandalisé de bien des moines et des bourgeois laïcs de Corbie, qui ne voient dans tout cela que d'un caprice de femme, eh bien, Colette Boilet franchit le seuil de sa clôture et se rend à Nice, dans le sud de la France, pour recevoir l'investiture du pape, en qui elle salue le chef de l'Église. Le pape est subjugué par sa sainteté. Il est d'ailleurs prévenu sur la portée de son message. Et là, le pape accepte sa double demande de suivre l'état apostolique et évangélique, en entrant dans la famille de Sainte-Claire, des Clarisses, et d'entreprendre, je cite, c'est le texte de l'époque, « la réparation et la réformation des ordres que M. Saint-François a institués ». Et là, le pape l'admet lui-même à la profession et la déclare abbesse et mère de toutes les religieuses qui vont marcher sur ses pas, à 25-26 ans, imaginez. Et à partir de ce moment-là, Sainte Colette ne s'appartient plus. Elle brave les divisions et les luttes armées, elle va de province en province, elle édifie, elle négocie, elle prêche. Elle s'impose par son éloquence qui est admirable. On est saisi par sa vie qui est une parole de Dieu en acte, finalement. C'est ça, nos vies devraient être des paroles d'Évangile en acte. Ce que Jésus nous enseigne, on devrait le mettre en pratique. D'ailleurs, Saint Jacques l'explique bien dans son épître magnifique. Sainte Colette va donc traduire dans les faits la révélation que depuis longtemps elle porte en elle. Celle qu'elle a recueillie de l'exemple et des lèvres de Saint François. Elle veut des cloîtres où va revivre l'esprit du début, le souffle des monastères où l'on ne parle plus de fondation ni de possession commune, où la pauvreté préside en reine, puis le silence en roi. Le silence dans les monastères, très important. Où les cellules sont menues, petites, comme des alvéoles d'abeilles peut-être. Puis les âmes, comme on dit à l'époque, dilatées sans mesure dans la charité du Christ, car, c'est ce qu'elle écrit dans ses avis, « Si notre aimable Sauveur, dont la grandeur et la bonté sont infinies, s'est tellement humilié jusqu'à devenir enfant et être enveloppé de lambeaux, s'il n'a pas dédaigné de vivre dans la pauvreté à tous les moments de sa carrière mortelle, bien à plus forte raison, nous, qui ne sommes que cendres, poussière et pâture des vers, devons-nous porter continuellement dans nos cœurs et dans tous nos vêtements cette sainte et digne pauvreté par amour de Jésus et de sa glorieuse mère. » C'est la fin du texte de Sainte Colette. Et c'est sur cette base que commence le double mouvement qui va gagner, petit à petit, là, les couvents des Clarisses, comme on appelait les pauvres dames, et ceux des frères mineurs. Elle y réveille la 16 des temps héroïques. Hein. La noblesse rivalise avec les gens ordinaires pour donner à cette grande réformatrice des couvents et des recrues de choix. Il ne faut pas penser qu'un tel redressement, c'est facile. Hein. Les médiocres supportent difficilement de voir se lever tout près d'eux le reproche incarné, comme on dit, d'un idéal pleinement vécu. Les médiocres, les assis, ceux qui prétendent être fatigués, se hérissent, ils se cabrent, ils se retranchent dans le confort d'une existence qui est bien installée. Il faut, pour les changer, quoi? Cet aiguillon tout-puissant de la grâce. Et quand on sait la force de résistance des préjugés, les préjugés contre l'Évangile, tout la force des résistances aussi des routines puis de l'inertie accumulée, hein, il semble bien que la réforme d'un ordre comme celui des franciscains, des clarisses, est un de ces miracles moraux qui porte la signature de l'authentique sainteté. Tout ça en plein milieu du 15e siècle. Colette n'a pas écrit le livre de ses fondations, mais on trouve déjà en elle cette alliance de faveur extatique et de sens pratique. Il y a chez elle de la ferveur, de l'équilibre, de l'audace, puis aussi de l'entre-gens. Qui, d'ailleurs, un siècle plus tard, vont faire le charme de Sainte Thérèse d'Avila, qui, elle, va réformer les carmélites. Dans un pays qui est dévasté, qui est livré aux bandes de toutes sortes, puis à toutes sortes de factions, elle évolue avec une grande aisance. Elle obtient des sauf-conduits pour franchir tous les obstacles. Elle apaise les soldats, comme on disait à l'époque, les soudards, qui l'arrêtent en chemin. Elle déjoue les manœuvres. Puis, disons qu'elle calme les chicanes. Et quand Sainte Colette reprend pied parmi les hommes, elle les entretient avec tant de bonne grâce. Elle les secourt avec tant de charité que personne n'hésite à l'aborder, ni à lui confier ses peines. Elle sème les miracles comme à pleine main. Elle est incroyable. Elle y met une espèce de note de bonté franciscaine. Et par exemple, c'est un lépreux dont elle partage sans dégoût la nourriture. Oui, dans sa plus pauvre écuelle. Et qui a son contact, ce lépreux, bien, il recouvre la santé. Ou bien c'est une dominicaine qui n'ose pas approcher d'elle sa face qui est couverte d'ulcères. Alors Sainte Colette proteste, elle dit « Quoi? Est-ce que je n'embrasserai pas celle-ci? » Et son baiser a raison des plaies affreuses, la dominicaine est guérie. Ou bien ce sont deux condamnés à mort qui s'obstinent dans l'impénitence, ils veulent pas se convertir. Alors, on va la chercher, puis elle entre en oraison. Puis sa victoire sur l'endurcissement de ses condamnés nous fait penser à la victoire de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, vous savez, à l'égard de Pranzini, qui se condamnait à mort. Et parmi la clientèle qui s'attache à ses pas, bien, il y a des catégories préférées. Celle qu'elle aime le plus, peut-être, c'est celle des ménages qui n'ont pas d'enfants, et dont elle exauce le désir d'avoir, justement, des enfants. Puis celle aussi des futures mères dont elle facilite la délivrance, hein, la mise au monde de leur bébé. C'est l'origine, d'ailleurs, d'une dévotion qui compte encore beaucoup de fervent. Aujourd'hui, on invoque Sainte Colette dans ce but-là. Alors, le rayon d'action de Sainte Colette ne cesse pas de s'étendre, et après avoir parcouru la Bourgogne, elle va dans le Bourbonnais, puis dans les Pays-Bas, et dans le Palatinat, Vevey, Le Puy, Esdin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Orbe, Heidelberg, Gand, en Belgique, et puis Montbéliard, Amiens, d'où elle vient, sont à leur tour transformés par la réforme monastique. Et les saints qui, dans ces temps-là, font figure de héros, bien, viennent au-devant de cette femme, parce qu'il y a des saints qui, en même temps qu'elle, qui vivent là-bas en France, hein, il y a Saint-Vincent Ferrier qui l'entretient des intérêts de l'Église, puis du schisme qu'il faudrait bien arrêter, le schisme des papes. Là. Il y a Saint-Jean de Capistran, dont je vous ai aussi parlé, qui poursuit, au-delà des Alpes, là, une œuvre semblable. Il rend hommage au succès de la réforme de Sainte-Colette. Et comme Saint-François d'Assise, bien à l'aube de sa conversion, Sainte-Colette a eu dès l'adolescence le spectacle du Christ en croix, qui lui détaille ses blessures et ses angoisses. On revient toujours à la croix. à la contemplation de l'amour fou de Dieu pour nous, qui est cloué, ou qui a laissé ses traces sur le Saint-Suaire. Les stigmates lui étaient entrés dans l'âme, à Sainte-Colette, et chaque vendredi, à l'heure de la crucifixion, il y avait le terrible scénario du Golgotha qui revivait ses yeux. Puis ça imprimait dans sa chair toutes sortes de douleurs atroces. Elle dit avec saint Paul, « À Dieu ne plaise que je me glorifie en autre chose qu'en la croix du Seigneur Jésus. L'amour du Christ et de son Église était tout son tourment. » Dieu ne trouve pas tellement d'âme de cette trempe. Hein? Les rares. Mais Jésus ne la laisse pas chômer longtemps. Sa vie à Sainte-Colette ne sera qu'une longue passion, masquée au dehors par l'égalité de son humeur, puis la grâce de son sourire. Et il n'y a pas de temps, ni d'heure, ni de moment, s'il est possible, c'est ce qu'elle écrit, que nous ne dussions avoir au moins cordiale mémoire et souvenance de notre Seigneur. Elle pense ce jour à Jésus. Le charisme qui lui permet souvent de voir l'avenir ne lui apporte pas, hélas, que des consolations, parce qu'elle voit venir la réforme protestante, la terrible réforme protestante, qui va détruire tant d'églises, de couvents, de reliques, que ça va être un carnage épouvantable, et toutes ces pertes cruelles, donc, que la réforme protestante va infliger à la chrétienté en déchirant l'Église. Elle aperçoit, comme à découvert, les bouleversements d'histoire qui vont mettre à feu et à sang plus d'un de ses propres monastères. Et Jésus doit être, comme elle dit, en agonie jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'elle écrit, on le sait, on connaît ce texte. Elle entend partager la veille de prières et de larmes de Jésus qu'elle aime totalement. Alors les hommes se mettent de la partie. Corbie, sa ville natale, dont un jour elle sera la gloire, ne lui vaut, à ce moment-là, que des déboires. Elle l'a quitté, sa petite ville de Corbie, sous les huées pour entreprendre sa mission, mais elle veut y ouvrir un couvent. Et là, c'est l'opposition de certains moines de l'abbaye bénédictine. La maladie, enfin, la torture de mille manières, et quand elle ne peut retenir une exclamation de douleur ou qu'elle devine autour d'elle la compassion de ses filles, elle les calme d'un mot. Elle dit, « Oh, vous savez, je gémis pour bien peu de choses. Je me plains toujours. » C'était pas vrai. Au vrai, elle était allée à l'extrême du sacrifice. Quand Dieu est venu la chercher, l'offrande est consommée. Une fois déjà, elle avait frôlé la mort. Mais le poverelle au Saint-François d'Assise avait obtenu un sursis, de quoi elle avait dit fort agréablement, et je trouve ça très drôle, « Hélas, ce bonhomme Saint-François ne veut pas que je meure ni que je me voie avec notre Seigneur. J'en suis bien mal contente. » Alors les années ont passé et Colette annonce sa fin prochaine. Les maux atteignent au paroxysme, elle souffre beaucoup. Un feu ardent qui travaille tout son être. Ça lui brûle les yeux. Alors, elle réussit à mettre par écrit quand même ses dernières recommandations. Et c'est une louange véhémente qu'elle adresse à Dame Pauvreté. Vous savez, Saint François d'Assise. Hein? Elle gagne le couvent de Gand, en Belgique, où la visite de Jésus vient la réconforter. Et c'est là que, la tête couverte du voile noir de sa profession et munie des sacrements puis des prières de la communauté, elle rend à Dieu son âme séraphique, comme on dit. Le 6 mars 1447, à 8h du matin, dans sa 67e année. Son corps a été transféré à Poligny, en France, depuis 1782, et ça s'est fait grâce à Louise de France, cette carmélite, fille de Louis XV, dont je vous ai déjà parlé, et c'était dû aux persécutions.